Radio Capi.
Le journal, c'est avec Gisèle Cage. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Heureux de vous retrouver sur Radio Capi, la radio de la paix. Voici votre journal avec l'essentiel de l'actualité nationale, régionale et internationale. Ebola, alerte maximale dans l'Est, au cœur des zones sous pression des groupes armés. La lutte contre l'épidémie se complique. Kinshasa et la MONUSCO se mobilisent pour sécuriser la riposte et protéger les populations. Congo central, coup dur pour les éleveurs. Mbanzangungu, une maladie parasitaire fait des ravages dans les élevages. Une centaine de vaches déjà perdues, mais la riposte est en cours. Permis de construire, les GUPEC veut mettre de l'ordre. Créé en 2022, ce service public encadre désormais la délivrance des permis de construire dans le Haut-Katanga. Son directeur provincial Souvien Kisimba en explique les enjeux et les fonctionnements. Il sera notre invité à la fin de ce journal. Dans l'est du pays, Ebola est de retour depuis plus d'une semaine au cœur d'un contexte sécuritaire tendu dans des provinces déjà sous pression à cause de groupes armés. Gérer l'épidémie devient un véritable défi. Comment protéger à la fois les patients, les centres de traitement et le personnel soignant. Face à l'urgence, le gouvernement passe à l'action. Le vice-premier ministre en charge de l'intérieur et de la sécurité, Jacquemin Chabani-Louko, a réuni ce samedi le gouverneur du Nord Kivu et de l'Ituri aux côtés de la MONUSCO. Objectif, anticiper, sécuriser et éviter le pire. La MONUSCO s'est dit prête à accompagner la riposte, surtout sur le plan sécuritaire. Pour James Swan, une coordination étroite n'est plus une option, mais une nécessité. On l'écoute dans cet extrait recueilli par Grâce Amzati.
On est très honoré de toute façon du fait que Son Excellence le Vice-Premier ministre nous a associés en tant que la MONUSCO afin de parler des aspects sécuritaires de la réponse à cette épidémie de l'Ebola. Nous comprenons qu'il y a une stratégie gérée par les experts dans la santé, y compris le ministre de la Santé, mais il y a 9 piliers de la stratégie congolaise et parmi ces 9 piliers, il y a un élément sécuritaire. Alors, étant donné que la MONUSCO est un partenaire sécuritaire du gouvernement, nous voulions y participer aussi, afin de voir dans quelle mesure on peut travailler ensemble, et la MONUSCO et le gouvernement du Congo, afin de répondre aux éléments sécuritaires de cette épidémie. C'était une initiative très appréciée. On a du travail à faire ensemble afin de mettre en vigueur les quelques décisions prises pendant la réunion.
Face à Ebola, la mobilisation dépasse désormais les frontières congolaises. À Kampala, le ministre de la Santé de la RDC, de l'Ouganda et du Soudan du Sud montent au front ensemble. Leur priorité, verrouiller les frontières pour limiter la propagation du virus. Surveillance renforcée, vigilance accrue, une stratégie commune pour stopper Ebola avant qu'il ne gagne du terrain. Les détails avec Suzanne Zombo, raconté par Jean Gandou.
La surveillance transfrontalière sera renforcée entre la RDC, l'Ouganda et le Soudan du Sud. C'est l'une des principales décisions issues de la réunion tenue du 22 au 23 mai à Kampala. Selon le ministère congolais de la Santé, face à la progression d'Ebola dans l'est de la RDC, notamment en Ituri, au nord et au sud Kivu, les autorités veulent améliorer la détection des cas, y compris au point d'entrée informel. Les trois pays ont décidé d'harmoniser leurs mesures sanitaires et de mieux suivre les mouvements des populations dans les zones à risque. Cette décision intervient dans un contexte marqué par la porosité des frontières et l'insécurité qui favorise la propagation du virus. Les États s'engagent aussi à renforcer les capacités des laboratoires, la prise en charge des patients et la prévention. Objectif, une riposte régionale plus efficace pour contenir rapidement l'épidémie.
Pendant ces temps sur le terrain, la maladie progresse et gagne du terrain. Ebola atteint désormais le Sud Kivu. Selon le dernier rapport du ministère de la Santé, mis à jour au 24 mai, 2 cas confirmés ont été recensés, dont un décès. Le foyer de l'épidémie se trouve dans la zone de santé des Miti-Muresa, dont le territoire de Kabare, à une vingtaine de kilomètres de Bukavu. Un nouveau front sanitaire dans une zone déjà fragilisée par la présence de groupes armés, notamment la rébellion AFC M23. Un contexte explosif qui complique sérieusement la riposte. Ailleurs, la vigilance reste maximale. Dans les Kasaï orientales, aucun cas signalé, mais pas question de relâcher l'attention. Les autorités sanitaires insistent, les mesures d'hygiène doivent être respectées à la lettre. Le message a été lancé jeudi lors de la réunion du comité provincial des urgences sanitaires. Le docteur Daniel Kazadi appelle à la prudence. On l'écoute au micro de nos confrères de la radio-télévision Fraternité Buena Muntu.
Pour l'instant, nous disons à toute la population, qu'elle soit soignante et non soignante, d'être calme. La maladie n'est pas au Kasaï oriental et que les dispositions sont prises pour que cette maladie n'atteigne pas la province du Kasaï oriental. Parmi les mesures, la population elle-même, elle est au centre de ces mesures. C'est notamment les mesures d'hygiène. La principale mesure d'hygiène, c'est le lavage des mains. Un lavage régulier des mains, donc avec du savon ou avec du gel hydroalcoolique. Et ce lavage doit être régulier. Nous demandons seulement que les personnes soignantes recourent aux différentes mesures de prévention ou de protection individuelle afin de se protéger et de protéger aussi les malades qui sont à leur charge.
Autre mesure forte pour freiner la propagation, le ciel se ferme partiellement. Le gouvernement serre la vis dans le secteur aérien. Tous les vols à destination et en provenance de Bunia en Ituri sont suspendus jusqu'à nouvel ordre. Une décision du ministère de Transport dans le cadre de mesures sanitaires exceptionnelles. Objectif, casser la chaîne de transmission. Le point avec Jean-Claude Lokidile, rendu par Nassian Tambo.
Dans un communiqué officiel publié ce samedi 23 mai 2026, le ministre congolais des Transports, Voies des Communications et des Désenclavements annonce la suspension de tous les mouvements d'aéronefs à l'aéroport de Bunia. Selon ce communiqué, aucun avion n'est désormais autorisé à atterrir ou à décoller de cette ville jusqu'à nouvel ordre. Cette restriction concerne les vols commerciaux, privés ainsi que les vols spéciaux. Les autorités précisent que cette mesure intervient dans le cadre des dispositions sanitaires exceptionnelles prises pour limiter les risques de propagation de maladies à virus Ebola. Les équipages et les exploitations aériennes sont appelés à respecter strictement les consignes sanitaires et sécuritaires émises par le service compétent. Toutefois, le vol humanitaire, sanitaire ou d'urgence pourront être autorisés uniquement après une approbation spéciale des autorités aéronautiques et sanitaires congolaises. Le ministre des Transports affirme que cette mesure conservatoire vise à protéger les passagers, les équipages ainsi que le personnel aéroportuaire contre toute propagation transfrontalière de l'épidémie. Les usagers sont invités à se rapprocher des services compétents pour obtenir des informations complémentaires.
On change des fronts, mais on reste dans l'alerte sanitaire. Direction le Congo central, dans les territoires des Mbanzangungu. Ici, ce sont les élevages qui sont touchés. Une centaine de vaches décimées en seulement 3 mois par une maladie transmise par des tiques. Des analyses réalisées à Kinshasa ont confirmé la présence de ces parasites. Malgré les pertes, les responsables veulent rassurer. La situation est sous contrôle. Les services vétérinaires sont déjà à pied d'œuvre. Explication avec Élise Cavera.
La ferme indique avoir enregistré 150 cas de mortalité au sein de son cheptel. Les premières pertes remontent à 3 mois, période à laquelle les premières vaches ont succombé à cette maladie. Selon le responsable de l'exploitation, cette situation serait liée à l'introduction du bétail en provenance des pays voisins ayant transité par le village vers la fin du mois de décembre de l'année dernière. Quelques mois après ce passage, les premiers signes cliniques sont apparus, notamment l'abattement, la présence du sang dans les urines, l'incoordination des membres ainsi qu'une perte d'appétit avant de conduire à la mort des animaux. Le docteur Mampassi Honoré tient toutefois à nuancer certaines informations circulant sur les réseaux sociaux. Il précise que la maladie en question ne se manifeste ni par la toux, ni par la diarrhée, ni par des saignements. Il ajoute que les animaux atteints sont actuellement pris en charge et que la situation tend progressivement à se stabiliser avec une baisse notable du nombre des décès. De son côté, le chef des divisions provinciales de la pêche et de l'élevage se veut rassurant. Il annonce que des mesures strictes ont été mises en place afin d'empêcher la commercialisation et la consommation de la viande issue des animaux morts dans le but de préserver la santé de la population locale. Matadi, Elise Kavira, Radio Kapi.
Dans les Tanganyika, la lutte continue, mais cette fois contre le choléra. La Croix-Rouge du Congo renforce la mobilisation sur le terrain. Un nouveau projet vient d'être lancé dans les zones de santé des Kalemi et Niemba. Pendant 6 mois, plus de 36 000 personnes bénéficieront de ce programme. Objectif, prévenir, sensibiliser et réduire les risques à la source. Un projet soutenu par le Fonds humanitaire du Congo. Les détails avec Paulin Munanga.
5 aires de santé sont ciblées par ce projet. Il s'agit de Mtoa, Kisongo, Kiriza, Bilila et Mutakuya. Les chefs de projet de prévention de lutte contre le choléra à la Croix-Rouge dans les zones de santé de Kalemi et Niemba expliquent en quoi consiste ce projet d'appui au renforcement des mécanismes communautaires de prévention et de lutte contre le choléra. Prémisse Kabasso.
C'est un projet qui est axé sur plusieurs piliers, notamment la sensibilisation des communautés dans les bonnes pratiques de l'hygiène et l'assainissement, qui va s'occuper aussi de renforcer les capacités des relais communautaires et des structures locales, et aussi promouvoir une participation active des communautés dans la prévention et la lutte contre le choléra.
L'administrateur du territoire assistant des Kalemi en charge des questions politiques et administratives rappelle que la lutte contre le choléra n'est pas seulement l'apanage des autorités sanitaires, mais elle concerne aussi la population. Simon Gani.
Cette maladie continue malheureusement de menacer la vie de nombreuses familles, particulièrement les enfants, les femmes et les personnes vivant dans des conditions difficiles. La lutte contre le choléra n'est pas seulement l'affaire des autorités sanitaires.
Lubumbashi, Pole Munanga, Radio Okapi.
Trouver un emploi en RDC, un défi quotidien pour des milliers de jeunes. Manque de formation, peu d'opportunités, le constat est sans appel. Pour Jacques Joly, il est temps de changer le cap. La formation professionnelle ne peut plus être reléguée au second plan. Lors d'une séance plénière consacrée au contrôle parlementaire, l'élu de Boindé a tiré la sonnette d'alarme. Selon lui, l'absence d'un cadre juridique solide bloque tous les secteurs et pénalise les jeunes, un enjeu crucial pour l'emploi et pour la croissance du pays. Jacques Joly, au micro de Krasa Mzati.
Cette question de formation professionnelle apparaissait ou apparaît comme une question périphérique. Nous venons nous rendre compte que c'est un outil par excellence de développement national, de croissance, d'employabilité de jeunes et qui va, comme beaucoup l'ont souligné, nous aider à sortir de ce sous-développement et plus précisément de la situation de la jeunesse désœuvrée. Si moi et mon collègue Eyanga, nous avons introduit cette proposition, c'est justement face au vide juridique dans lequel le ministre évolue. Il n'y a pas un cadre légal. Il y a un texte de 71 et pratiquement il doit recourir au code du travail. Ce qui fait que c'est un ministère qui est coincé. Depuis 2019, nous avons essayé de faire cette loi qui a été acceptée ici grâce au président Mbosso, mais ça n'a pas abouti. Donc, nous devons, compte tenu de l'importance qui a été soulevée ici, arriver à avoir ce cadre juridique qui va lui permettre de s'assumer parce que c'était très difficile d'accepter ces ministères. Heureusement, il y a le chef de l'État qui l'a fait. Donc, nous comprenons ces difficultés, mais il doit aussi comprendre les attentes fortes qu'il y a et sur lesquelles nous devons travailler.
Et puis, une note d'espoir pour conclure. À Kananga, des jeunes refusent la fatalité et reprennent leur destin en main. Malentendant encadré au centre Pandilou, ils ont choisi de tourner le dos à la mendicité. Leur réponse, le travail. Ils fabriquent des sandales à partir des pneus usés et en vivent. Une initiative simple mais forte qui redonne dignité et autonomie. Un reportage inspirant signé André Katende Ngalamoulumé.
Devant le centre Impandilou, situé non loin du rond-point Notre-Dame, des jeunes malentendants s'activent à la réparation des chaussures. Au-delà du raccommodage des souliers de leurs clients, ils fabriquent également des sandales à partir de vieux pneus des véhicules. Une paire de ces sandales est vendue entre 5 000 et 8 000 francs congolais. Telesphore Pakabomba, encadreur au centre Impandjulu, explique que ces jeunes ont d'abord été formés à la menuiserie, mais faute des moyens, ils se sont tournés vers cette activité apprise auprès de l'un d'eux durant leur parcours scolaire.
Pendant qu'ils étaient ici élèves, il y avait quelqu'un d'entre eux qui travaillait déjà les souliers. Les autres observaient et imitaient.
Ce travail leur permet aujourd'hui de subvenir à leurs besoins ainsi qu'à ceux de leur famille. Plusieurs habitants saluent les savoir-faire de ces artisans. C'est le cas de Louis Ntumba, venu s'y procurer une paire de sandales.
Malgré leur handicap, ils travaillent avec sérieux, achetaient leur babouche et encourageaient leur travail.
Face aux difficultés financières auxquelles ces jeunes sont confrontés, Telesphore Pakabomba lance un appel aux autorités pour un accompagnement afin d'améliorer leurs conditions de travail et développer davantage leur activité. Kananga, André Katendengala Mulumi, Radio Okapi.
Actualité internationale.
Au moins 24 personnes ont été tuées ce dimanche dans une attaque à l'explosif contre un train transportant des militaires dans la province des Baloutchistan au sud-ouest du Pakistan. L'attentat s'est produit dans la capitale provinciale Quetta. Parmi les victimes figurent des membres des forces armées et le bilan fait également état de plus de 50 blessés selon un responsable local. D'après les premières informations, une voiture piégée a percuté un wagon du train au moment où celui-ci franchissait le passage ferroviaire à Chaman Patak, déclenchant une violente explosion. Sur place, les images sont impressionnantes. Un wagon éventré, renversé sur le flanc, et des secouristes ainsi que des habitants tentant de retrouver d'éventuels survivants dans les décombres. Le train relié Quetta à Peshawar est transporté des militaires ainsi que des membres de leur famille. Cette attaque intervient dans un contexte de tensions persistantes dans cette province instable où des groupes séparatistes accuse régulièrement le gouvernement pakistanais d'exploiter les ressources naturelles locales sans en faire bénéficier les populations.
L'invité.
Notre invité aujourd'hui s'appelle Souvien Kisimba. Il est directeur provincial du guichet unique de délivrance de permis de conduire dans le Haut-Katanga, le GUPEC. Dans un entretien accordé à Pauline Munanga, il revient sur le rôle et surtout l'importance de ces services de l'État mis en place en 2022. Objectif, mettre fin au désordre dans l'octroi des permis de construire et remettre de la rigueur dans les secteurs. Entretien au micro de Pauline Munanga.
Monsieur Souvien Kisimba, bonjour.
Bonjour, monsieur le journaliste.
Pourquoi un guichet unique juste pour la délivrance des permis de construire?
Nous sommes un guichet unique de délivrance de permis de construire, GUPEC en sigle. Pourquoi nous sommes un guichet unique? C'est-à-dire toutes les opérations du début à la fin, du dépôt d'un dossier à l'octroi du permis de construire, ça s'est fait à l'interne du GUPEC. Donc le GUPEC ne dépend pas d'un autre service. C'est ainsi que même l'article 47 de l'arrêté portant mesure d'exécution du décret, donc l'arrêté 058, à son article 47, parle de ça.
Comment fonctionne le GUPEC? En d'autres termes, quelles sont les étapes à suivre par une personne pour l'obtention d'un permis de construire?
Nous voulons ici donc informer la population. Auparavant, GUPEC n'existait pas. Mais par des réformes voulues par le gouvernement de la République démocratique du Congo, c'est ainsi que GUPEC a été aussi institué, créé. Et aujourd'hui, lorsque vous voulez construire, c'est venir avec votre dossier au GUPEC. Et cela, c'est l'article 13 de l'arrêté 058. Donc, le dépôt du dossier s'est fait au GUPEC. Et à l'article 20 du même arrêté, on parle de l'instruction du dossier. C'est-à-dire, l'instruction du dossier, le traitement du dossier, s'est fait au GUPEC. Pas ailleurs. Nous avons des techniciens qui vont faire la descente, qui vont faire leur PV et nous allons faire la taxation. Et même la signature du permis, ça s'est fait au GUPEC. Et le contrôle, l'article 37, même arrêté, l'article 38, vous allez voir que dès qu'on vous donne, on vous octroie le permis, les copies doivent demeurer sur le chantier.
Pourquoi?
Parce que nos agents passeront pour le contrôle de ces permis.
Les permis de construire étaient octroyés depuis longtemps, avant même l'existence du GUPEC. Maintenant, quelle est l'importance de votre service?
Le GUPEC est venu donc combattre tout ce qui était comme antivaleur. Le GUPEC est venu mettre de l'ordre dans l'octroi de permis. Vous allez voir, la plupart de ceux-là qui construisaient n'avaient pas même le permis, parce que même la procédure était difficile pour avoir le permis de construire. Mais aujourd'hui, avec la création des GUPEC, on a facilité les choses. Donc, venez à GUPEC, la République démocratique du Congo, les gouvernements, a facilité les choses pour avoir ces permis.
Et maintenant, quel rapport entretenez-vous avec la division provinciale de l'urbanisme, vous en tant que GUPEC?
Le problème, selon les textes, il n'y a rien, mais il n'y a qu'un problème des personnes. La façon d'interpréter le texte, il n'y a que la rébellion, donc le refus d'accepter ce que dit le texte.
Qui refuse ?
Il y a la division de l'urbanisme qui refuse la réforme. C'est ainsi que vous allez voir, ci et là, des déclarations à mettre la population à mal.
Actuellement, il y a une certaine confusion qui s'observe sur le terrain dans la délivrance du permis de construire. Des agents de la division de l'urbanisme aussi, nous apprenons qu'ils sont en train de délivrer ces permis-là. Comment est-ce que vous répondez?
Les agents de l'urbanisme qui continuent à octroyer, à traiter les dossiers de permis de construire, se mettent dans le faux. Tous ceux qui sont en train d'octroyer là-bas, ce sont des faux documents. Aujourd'hui, il n'y a que GUPEC qui peut octroyer le permis de construire. Et nous allons faire nos enquêtes.
Il y a certains agents de la division provinciale de l'urbanisme qui accusent GUPEC d'empiéter sur les attributions de ses services de l'État. Quelle est votre réaction?
Nous réceptionnons les dossiers de demande de permis de construire sur GUPEC. Est-ce que c'est empiété sur les attributions de l'urbanisme? Non, parce que l'article 13 de l'arrêté 058 parle que le dépôt du dossier s'est fait au GUPEC. Et puis, je vous ai parlé ici des traitements du dossier, de l'article 20. Nous traitons les dossiers ici. Est-ce que c'est empiété sur les attributions de l'urbanisme? Non. Je vous ai parlé aussi du contrôle. Je vous ai parlé de l'article 37. Et l'article 38, on peut ajouter même d'autres articles. Quand nous contrôlons ce que nous avons signé, est-ce que c'est empiété sur les attributions de l'urbanisme? Nous signons le permis ici. Qui viendra contrôler ça, c'était un vrai permis ou bien ça, c'est un faux permis? C'est un autre service. Quand nos agents descendent sur terrain, ce n'est pas pour aller contrôler les attributions de l'urbanisme, non. C'est pour contrôler le permis de construire.
Monsieur le directeur Souvien Kisimba, je vous remercie.
C'est moi qui vous remercie.
C'était Souvien Kisimba, directeur provincial du GUPEC dans le Haut-Katanga. Il est revenu sur le rôle et l'importance de ce service de l'État créé en 2022 pour émettre de l'ordre dans la délivrance de permis de construire. Un entretien réalisé par Paul Mounanga. C'est la fin de votre journal sur Radio Capi présenté par Gisèle Cage. Toute l'équipe de la rédaction vous remercie de nous avoir accompagnés tout au long de ce rendez-vous d'information. L'actualité continue bien sûr sur nos antennes et nos différentes plateformes. Alors, restez connectés pour la suite de nos programmes. À toutes et à tous, nous vous souhaitons une excellente soirée pleine de sérénité. Prenez soin de vous et à très bientôt sur Radio Capi, la radio de la paix.